en euros. Tandis que si, par exemple, je prends, je sais pas ce qu'ont touché les actionnaires de chez Michelin, entre 92 et 2011, ils ont été augmentés de 12,5%. Et la masse salariale de chez Michelin, elle, c'est 1,2% pour la même période.
Mais est-ce que l'argent n'a pas toujours été l'attribut des dominants, précisément? Est-ce que l'attribut des dominants, c'est l'argent? Est-ce que je domine parce que j'ai de l'argent? Ou bien c'est parce que j'ai de l'argent que je domine, Michel?
La domination sur longue période suppose autre chose que l'argent. C'est ce que nous avons fait dans nos travaux précédents, c'est de voir que les positions dominantes dans la société ont besoin d'autres éléments que la richesse matérielle pour se perpétuer, passer de génération en génération. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le capital culturel aussi. Il y a le capital économique, bien sûr, mais il y a le capital culturel, le capital
social
et
des relations.
familial, les relations sociales et familiales. C'est un système de relations très important, et c'est ce qui permet à des dynasties d'exister, à des dynasties soit très anciennes comme les Tettinger ou les Wendel par exemple, soit des dynasties beaucoup plus récentes comme les Bouygues ou les Dassault. Mais ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que il y a un peu rupture probable de ce modèle. Par exemple, les experts ont à peu près déterminé que les échanges mondiaux sur les produits spéculatifs du marché dérégulé, c'est-à-dire par exemple les subprimes dont on a parlé pour les États-Unis, tous ces produits dérivés représentent 74 fois le produit intérieur brut, enfin le produit total du monde. La masse des produits dérivés en circulation sur laquelle il y a des jeux et des profits qui se chiffrent par millions et par milliards, tout cela représente 74 fois la richesse produite en un an dans un pays.
Alors que ça représentait 5% en 1990, c'est-à-dire que l'augmentation est énorme, c'est incroyable.
C'est-à-dire, autrefois, on pouvait s'enrichir ou maintenir sa richesse en exploitant les autres, en détournant le travail des autres ou la production des autres, les patrons d'autrefois, les patrons paternalistes, que vous finiriez presque par nous faire
regretter.
Étant donné les salauds d'aujourd'hui, et il faudrait faire attention à ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait non plus la mémoire courte. Un jour, on va regretter Ford, ici, ou je ne sais qui. Et il y avait cette façon de s'enrichir ou de maintenir sa richesse, parce que l'objectif et le fonctionnement des gens dont vous vous occupez depuis si longtemps, vous observez depuis si longtemps, vous êtes les rares, sinon les seuls sociologues à avoir passé les trois quarts de votre vie à observer le monde de la bourgeoisie et des riches. Jusque-là, voilà comment, enfin, ou du moins dans la période récente, disons, de la révolution industrielle, 18e, 19e siècle, voilà comment on s'enrichissait. Et puis, bien une fracture qui est effectivement cette économie financiarisée qui intervient quand à la fin des années 70.
Oui, c'est-à-dire qu'elle commence en réalité à intervenir tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sortent de cette Seconde Guerre mondiale quand même comme étant la première puissance économique du monde. Et à ce moment-là, ils imposent les accords de
Bretton Woods.
J'arrive jamais à le dire, excusez-moi du peu. Et à ce moment-là, ils arrivent à imposer le fait que la monnaie doit toujours être réédité en fonction des réserves d'or, mais désormais, à partir de ces accords, il n'y a plus que le dollar seul qui a le droit d'être convertible en or. Donc ça donne un pouvoir considérable aux États-Unis, le gendarme du monde, puisque tout le commerce à l'échelle du monde va se réaliser en dollars. Et puis, ensuite, les États-Unis ont les problèmes au Vietnam, etc. Nixon, à ce moment-là, a cette idée géniale, le 15 août 1971, eh ben, il dit, désormais, on va pouvoir émettre des dollars, on enlève la convertibilité avec l'or. Et à partir de ce moment-là, les États-Unis ont pu vivre bien au-dessus de leurs moyens. Les puissants, alors ça se passe, je donne les États-Unis, parce que c'est très important de toujours analyser l'argent dans des rapports de force à l'échelle internationale ou à l'intérieur d'un pays entre les classes. Les États-Unis peuvent émettre autant de monnaie qu'ils le souhaitent.
L'oseille, tôt à la fraîche, avant que le blé ne soit. joie, Fuji.